Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International pour, évidemment, entendre parler de football. Nous sommes sur la planète football et ce soir reprend une fois encore la Ligue des Champions. Avec l'autre demi-finale en Catalogne, FC Barcelone, Inter Milan, soit la meilleure attaque face à la meilleure défense de cette compétition. Une belle confrontation en perspective entre deux styles de jeu opposés. Le Barça, récemment sacré roi d'Espagne, vise la couronne européenne et sa dynamique donne crédit à ses ambitions. Une victoire parisienne à Londres et les Anglais s'enflamment pour l'équipe de Luis Enrique qui a contenu les assauts d'Arsenal grâce notamment à un super Donnarumma. Un but qui donne donc l'espoir au PSG pour le retour avec ou sans son buteur Ousmane Dembélé, on ne sait pas encore. La passion argentine pour le football. Jamais le Super Classico n'avait drainé autant de spectateurs au Monumental pour assister à la victoire de River Plate sur Boca Juniors. Et le réalisateur du documentaire Nuestra Alma, lui qui a filmé les Argentins durant la dernière Coupe du Monde, et ça a donc duré un mois du début jusqu'à la fin de la compétition, il est avec nous. Bonjour David Comeroc, bienvenue.
Merci, bonjour Annie.
Et re-bienvenue, hein, puisqu'on vous avait reçu l'an dernier à Deauville, où vous aviez présenté ce documentaire. À Deauville, eh bien justement, il y avait aussi Philippe Doucet. Bonjour Philippe.
Et comment ? Bonjour Madame Annie.
Bonjour Monsieur Philippe, vous allez bien ?
Oh oui, forcément.
Salim Bongali, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là avec nous. J'ai gardé notre ami E. Pour la fin, Marina Lorenzo, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci Marina d'être à nouveau avec nous dans ce studio pour parler football. Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission avec David Finzel et le maestro Salerno est aux commandes. Radio Foot, c'est parti.
Aquesta sensació. La recordes? Les nits màgiques. I aquella manera tan nostra de jugar. Per somiar. Per gaudir, per vèncer.
Et oui, un appel au public puisque les Blaugrana sont en demi-finale ce soir et ça n'était pas arrivé depuis 2019. Mais cette rencontre devra se contenter de l'étroit stade de Montjuïc et de ses 55 000 places, soit la moitié de celle de l'ancien Camp Nou, là où les travaux s'éternisent dans l'enceinte historique. Barcelone-Inter, à un moment où les deux équipes ne sont pas vraiment sur la même dynamique. Les Nerazzurri on en a beaucoup parlé hier dans Radio Foot, ont enregistré 3 défaites en Italie alors que les Blaugrana ont été sacrés samedi soir, roi d'Espagne, grâce à leur victoire sur le Real. Le Barça vise toujours le triplé alors que l'Inter ne pourrait viser au mieux qu'un doublé. Est-ce que c'est une rencontre déséquilibrée selon vous, Marina?
Elle le paraît aujourd'hui, alors qu'effectivement il y a quelques semaines quand j'étais avec vous, je me disais, cette équipe de l'Inter, j'ai l'impression...
On les mettait parmi les favoris.
Ouais, j'ai l'impression qu'elle n'allait pas s'arrêter, qu'elle continuait de monter. Bon, voilà, les semaines qui ont suivi m'ont donné tort, mais...
La semaine même.
Oui, la semaine.
qui vient de passer.
Effectivement. Après, voilà, il y a les circonstances atténuantes pour l'Inter, quoi, l'absence de Marcus Thuram qui sera là ce soir. Est-ce que on va retrouver l'Inter qu'on voyait il y a 2 semaines? Mais effectivement, sur le papier, aujourd'hui, ça paraît très déséquilibré. Et vu ce que le Barça a montré samedi soir, Et cette finale incroyable, ça oui.
On a eu la meilleure attaque de la compétition, c'est contre la meilleure défense, mais c'est vrai que même s'ils ne sont pas dans la même dynamique, c'est quand même deux choses qui impressionnent, Salim.
Oui, et c'est vrai que le style interiste, cette fameuse équipe en 3-5-2 avec cette défense assez basse qui, sur le papier, on se disait, pouvait pleinement gêner le Barça qui a besoin au final de partir, enfin qui peut en tout cas, en étant très haute, partir aussi de loin avec ces ailiers qui vont notamment très vite devant. On se disait que ça pouvait être un problème justement pour le Barça d'affronter cette équipe de l'Inter qui est pile poil fabriquée comme il faut pour en tout cas empêcher ses attaquants d'évoluer. Mais là, avec notamment, vous évoquiez Marcus Thuram, à voir s'il est à 100% ou pas, à voir si Dumfries, lui, ne sera pas là pour cette rencontre. C'est quand même un manque non négligeable aussi dans cette défense. Enfin, quand on a tout ça additionné, plus la période actuelle où l'Inter, donc il y a eu cette élimination en Coupe du Roi, en Coupe d'Italie, il y a eu cette nouvelle défaite en championnat. De l'autre côté, vous avez un autre tempo. on se dit que c'est
oui,
pas
en
bon
même temps, on a vu le Paris Saint-Germain le week-end dernier perdre son invincibilité en championnat et ça les a pas empêchés hier de faire une grande démonstration à Arsenal. Donc c'est peut-être un des bémols aussi, qu'on peut mettre. Philippe, meilleure attaque de la compétition, c'est vrai qu'on a face à peut-être ce mur interiste, on a quand même des sacrés attaquants, même si ce soir Lewandowski est blessé à la cuisse et ne sera pas là.
Oui, mais Ferran Torres fait une belle saison, donc je pense que le potentiel du Barça n'est pas handicapé par ça. Mais je vous trouve très pessimiste pour l'Inter. Moi, je pense qu'on a vu Arsenal, PSG, tous. On n'a pas d'équipe qui caracole aujourd'hui, qui marche sur le football européen. Les quatre qui sont en demi-finale sont des très, très bonnes équipes, mais elles ne marchent pas sur le football européen. Et donc, bon, bah, qu'elles se soient un peu relâchées, parce que l'Inter, le relâchement, il est vraiment consécutif à la qualification contre le Bayern. Tout d'un coup, il y a eu un vrai relâchement. La blessure de Thuram en plus, quelques petits pépins divers et variés. Moi, je pense qu'ils ont absolument tout. Je continue de penser qu'ils ont tout pour gêner le Barça. Hein,
alors beaucoup. Que le Barça, lui, est quand même sur une dynamique de sa victoire face au Real Madrid après 120 minutes de jeu.
Justement, pour avoir vécu... Alors moi, je ne sais pas les 120 minutes, parce qu'on les oublie vite quand on a gagné. Et c'est des victoires qui portent. Mais je me rappelle très, très bien pour avoir été là-bas au moment où le Barça a fait son quatrième titre consécutif avec Cruyff en 94. Ils ont fêté toute la nuit le titre. Je faisais encore des interviews à 4h du matin. Et 4 jours après, ils avaient pris 4-0 en finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC.
Oui, mais on fait plus ça aujourd'hui, Philippe.
Et je pense que...
Déjà, c'est rare d'avoir une interview à l'écho tard après le match.
Je pense que ça n'existe plus, 4h du matin. Marina a complètement raison. Les mœurs du football ont bien changé. Plutôt dans le bon sens, en termes de sérieux. Mais par contre, en termes de... En termes de dépenses d'énergie, je pense que ce match contre le Real, il était gigantesque. Mmh. Gigantesque de dépenses physiques, mais d'énergie surtout, beaucoup plus. Et du coup, je serais bac catalan aujourd'hui, je me méfierais énormément de ce match contre l'Inter.
Alors, ce qui est amusant, c'est que le plus jeune de ces attaquants dans cette équipe, qui a été formé à la Masia, c'est bien sûr Lamine Yamal. Et hier, en conférence de presse, il ne se refusait à ce qu'on le compare à un légendaire aîné qui jouait encore à Barcelone en 2019 quand il y a eu la dernière demi-finale.
Je ne me compare pas à lui car je ne me compare à personne. Je m'en remets donc à vous. Nous pensons juste à nous améliorer chaque jour et être meilleurs le lendemain. Je pense donc que la comparaison avec Messi n'a aucun sens. J'essaie d'être moi-même et de faire mon propre chemin. Il est évident que je l'admire en tant que meilleur joueur de l'histoire, mais je ne me compare pas à lui.
Alors lui, il ne se compare pas, mais évidemment d'autres y pensent. Oui. Est-ce que c'est stupide ou est-ce que c'est inévitable comme comparaison, Marina?
J'ai envie de dire un peu les deux. C'est-à-dire que non, mais oui, parce qu'à la base, évidemment, stupide, et il a la réponse qu'il faut donner. Évidemment qu'on ne peut pas se comparer, et surtout à son jeune âge, et que ça paraîtrait vraiment se brûler les ailes tout seul, se mettre une balle dans le pied. Donc il a la bonne réaction. Donc oui, c'est stupide de comparer, mais on ne peut pas s'empêcher de comparer dans ce milieu. Et puis on est toujours dans l'attente aussi.
C'est une belle filiation quand même.
Bah voilà, on est toujours dans l'attente de voir ce joueur qui va nous faire vibrer à chaque match. Donc on l'attend, et nous les journalistes, on essaye de faire des comparaisons.
Et le problème, c'est qu'on se met aussi dans ce rôle où donc on compare, on voit les chiffres et on se dit « Ah, à cet âge-là, il est meilleur que Messi, il est meilleur que Cristiano,
oui, mais il a
donc
plus de
peut-être,
match.
Attention
!» Les statistiques, c'est cruel. Mais on se souvient qu'on l'a fait entre Cristiano Ronaldo et Messi. Après, est-ce que tel joueur, Mbappé ou autre, marche dans les pas
Mbappé, de... etc., bien sûr.
Alors, il n'y a pas seulement les attaquants qui brillent dans cette équipe du Barça où il faut se méfier un peu de tout le monde. Un but salvateur peut venir de derrière et le buteur atteindre alors un nouveau statut. C'est le cas de l'international français de Jules Koundé. Alors, Jules, comme on l'appelle du côté... Alors non, c'est pas le chanteur de Marseille.
Ah, d'accord.
Jules, là on met un S. C'est son nom en Catalogne, hein, puisqu'on aime bien les prénoms là-bas et c'est la prononciation logique en catalan du nom de Jules. Nouvelle coqueluche donc des Culés Blaugrana. Et Hansi Flick, eh bien, il lui témoigne bien sûr et depuis longtemps sa confiance.
Jules est un joueur extrêmement professionnel. Pour moi, ce n'est pas seulement son but qui m'a marqué, c'est surtout son travail défensif. Il y a eu plusieurs situations où il a su parfaitement neutraliser l'adversaire. À un moment, j'ai vu cette passe arriver et je l'ai vu sauter, jaillir. Et je dois dire que j'étais moi-même un peu surpris. Mais il est intervenu au bon moment. Et ensuite, il ne restait plus qu'à croiser les doigts pour qu'il concrétise l'action.
He can score a goal.
Oui, quel erreur! Se la va Koundé! Koundé le pega! Goal, 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 goal!
Oh, la montée décisive du Français! Qui fait exploser de joie tout le FC Barcelone!
Un Français peut décider le titre! Jules Koundé!
Un Français, hein, un Français
Jules
peut
Koundé,
décider.
Jules Koundé.
Hein, un Français peut décider d'un titre. C'est sa deuxième saison à Barcelone, Philippe Doucet, et on le voit beaucoup progresser, ce joueur qu'on connaît bien en équipe de France aussi.
Oui, qu'on ne voyait pas, à mon avis, assez. On ne voyait pas assez ses qualités. C'est d'abord un formidable défenseur. Tout le monde ne parle que du but qu'il a marqué, de son implication offensive. Il a fait des progrès énormes dans ce domaine-là, mais c'est d'abord un formidable défenseur qui jouait défenseur central de formation, et c'est un défenseur central. Et c'est là qu'il excelle. Et cette équipe a besoin de ça, parce que c'est une équipe qui défend très haut, qui prend de gros risques, et il faut des sacrés défenseurs pour intervenir comme il faut derrière, parce que sinon il y a 40 mètres derrière, hein, pour courir jusqu'au but.
Mmh. Ouais. En tout cas, cette équipe de Barcelone, où s'annonce la bataille? Ça sera peut-être au milieu de terrain, Marina?
Peut-être, comme on l'a l'attendait hier.
On le prévoyait un peu entre le Bayern et l'Inter, je me souviens, sur cette bataille de milieu de terrain. Est-ce que là, finalement, on en revient à ça aussi?
Oui, sans doute, que ça, comme souvent les grands matchs, en fait, effectivement, maintenant, oui, c'est possible, Salim, je te lance la balle.
Ah non, mais t'as raison. Pour le coup, quand tu vois en plus les deux systèmes de jeu et la manière dont ces deux systèmes vont s'entrechoquer, entre guillemets, au milieu de terrain,
s'imbriquer, ouais.
On se dit qu'on va quasiment avoir une individuelle, au final, 3 contre 3. Donc là, c'est effectivement au plus intelligent, en tout cas au plus collectif des trois milieux, enfin des deux milieux à 3, qui va sans doute réussir à s'en sortir dans ce cas-là, quoi.
La meilleure attaque donc face à la meilleure défense, et l'Inter espère bien faire valoir justement son point fort. Le capitaine et le buteur argentin des Interistes, Lautaro Martinez, souligne la force de l'équipe italienne.
On connaît la puissance offensive et la capacité de marquer de cette équipe. On va devoir travailler ensemble pour faire un excellent travail défensif, comme on l'a fait jusqu'à présent. En tant qu'équipe, on a très bien défendu contre de grands adversaires et de grands joueurs dans cette compétition. Et demain, on aura une nouvelle occasion de le faire. On doit travailler ensemble, attaquer et défendre ensemble, et essayer de ne pas leur laisser créer des occasions.
Lautaro, au terre, on s'en souvient d'un but extraordinaire face au Bayern Munich au match aller en Allemagne.
On écoutait Lautaro Martinez qui expliquait notamment il faut qu'on défende ensemble, comme on a pu le faire par le passé, etc. Alors oui, ils l'ont fait, notamment en quart de finale face au Bayern. Je rappelle que le Bayern a eu beaucoup d'opportunités quand même à l'aller et au retour. Il y a eu beaucoup de malchance, j'aurais dire, pour le club allemand.
Oui, parce qu'il y a eu deux victoires italiennes au final.
Oui, match nul. Match nul au retour et victoire à l'aller là-bas. Mais juste Lautaro Martinez, c'est intéressant aussi de le voir encore plus ce soir si Marcus Thuram est là, parce qu'on l'a vu sur les dernières rencontres, quand Marcus Thuram n'est pas là, tout d'un coup il est devenu, et c'est terrible de dire ça parce qu'il est exceptionnel depuis le début de saison, notamment en Champions League, il est devenu entre guillemets un attaquant normal, là où avec Marcus Thuram il est normalement plus que normal.
Ouais. Philippe, cette équipe finalement d'Italie, elle est plus expérimentée, on va dire. Elle a cette expérience. Il y a deux ans, ils étaient déjà en finale de Ligue des Champions. Par rapport à la jeunesse, à la fougue barcelonaise, est-ce que justement ça peut compter ce soir en leur faveur?
Oui, je pense. Je pense que ça peut compter. Des quatre équipes qui restent, c'est la plus expérimentée, à la fois l'effectif qui est là, et le passé récent, très récent, ni Barcelone, ni Arsenal. Bon, si le PSG quand même, le PSG était là récemment quand même, ils étaient en demi-finale l'année dernière. Mais c'est plus l'Inter qui me semble, de ce point de vue-là, avoir effectivement l'avantage. Est-ce que Barcelone peut, avec sa jeunesse, être un peu, tout d'un coup, un petit peu impressionné, un peu bridé? En tout cas, ça n'a pas été le cas du PSG hier. On voit que pour l'instant, il n'y a pas de problème de l'expérience. Le manque d'expérience n'est pas un problème pour la plupart des équipes à ce niveau-là quand même, malgré tout.
Mmh. La presse italienne s'est amusée à faire un titre Corriere dello Sport en parlant de crema catalana. Alors, la crema catalana, ça on connaît, c'est le dessert. La crème catalane. Et crema, c'est trembler, en fait.
Peur, hein.
Donc, ils ont joué là-dessus. Est-ce que... quand même, on les sent méfiants, les Barcelonais, face à cette équipe de l'Inter, très, très sûre de ses points forts.
Oui, bah, je pense qu'il faut qu'ils le soient. C'est vrai que pendant longtemps, on sentait dans cette équipe une confiance absolue. Là, se méfier de l'Inter aujourd'hui, vu la situation, oui, je pense qu'il le faut, même si on disait au début que leurs évolutions et leur cadence actuelle étaient opposées. Je pense qu'ils auraient tort de ne pas se méfier.
C'est ça, parce que lorsqu'il y a eu, alors non pas le tirage au sort, puisqu'on connaissait le tableau, mais lorsqu'il y a eu les qualifications en quart de finale, on s'est dit... Barcelone-Inter, c'est peut-être le pire adversaire pour le Barça, entendu, par rapport au système de jeu, par rapport à la forme.
Beaucoup espéraient que ça ne soit pas l'adversaire du PSG.
Exactement, par rapport à la forme de l'Inter à ce moment-là. Mais comme quoi, en deux semaines, ça peut aller tellement vite dans un sens comme dans l'autre. Au moment où je vous parle, ça se trouve, la semaine prochaine, on n'aura pas le même discours parce que d'autres joueurs sont blessés, suspendus, seront de retour. Mais là, aujourd'hui, j'ai des inquiétudes, moi, sur l'aspect physique de l'Inter.
Philippe, sur la confrontation, tout à l'heure, Salim disait cette espèce de complémentarité, finalement, entre deux styles. C'est ce qu'on a toutes les chances de voir ce soir, parce que c'est deux écoles, quand même, entre Hansi Flick, qui est un peu revenu aux bases barcelonaises, et puis l'Inter, qui représente quand même le football italien.
Pas tant que ça. L'Inter, je le vois, tout le monde, je le décris comme une équipe défensive. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors, pas du tout. C'est une équipe très complète, capable des deux. Elle est capable, effectivement, de défendre quand ça l'arrange. Elle l'a très bien fait à Munich au match aller, où elle était assez défensive dans son essence, mais avec une capacité de contre-attaque remarquable. Ce qui veut dire quand même qu'ils sont capables de se projeter à 4 ou 5 et à marquer un but. Ils ne font pas que bétonner. C'est fini, Mourinho, les années Mourinho, c'est fini. On en est très très loin. Et franchement, c'est là où l'Inter me paraît tout à fait capable d'embêter le Barça. Dont le Barça, on sait comment ils vont jouer. Vous me direz, c'est un jeu. On sait comment ils vont jouer, mais ils sont tellement inspirés que ça ne vous garantit pas de pouvoir les contrôler. Aussi. Oui, ils sont quand même imprévisibles. On ne parle jamais de Pedri, qui est quand même, pour moi, le meilleur joueur que j'ai envie de voir aujourd'hui partout, à chaque match. Moi, c'est Pedri. C'est même pas Yamal ou Dembélé ou je sais pas qui ou Rafinha, etc. Moi, c'est Pedri que je veux voir. C'est ça le football. Et lui, c'est le joyau. Mais je pense, on a parlé tout à l'heure de la guerre du milieu. Là, il va avoir fort à faire. Hein. Le milieu de l'Inter, c'est du costaud, c'est très intelligent, c'est des 10 reconvertis. Donc, avec le ballon, c'est très fort. Là, Pedri, il va peut-être avoir beaucoup de boulot pour mener le jeu comme il le fait d'habitude.
Ah, même Kitarian, qui fait une saison incroyable, notamment dans le milieu de terrain de l'Inter.
Là, quand on parle d'expérience...
Absolument. Mais
il a quel âge ?
C'est vrai, c'est là qu'il est toujours là. La pression, effectivement, qui continue. Juste, c'est vrai que le 3-5-2, vous avez raison de dire, Philippe, on se dit 3-5-2 dans l'imaginaire de certains, 3, puis 5, seulement 2. Non, ça veut surtout dire bien défendre, défendre.
C'est les seuls qui jouent avec deux avant-centres.
Exactement, en plus.
Entre parenthèses.
Totalement, absolument. Ils arrivent à être à 3 derrière et à 2 devant, ils le font et ils le font très bien, donc ils savent bien défendre ensemble et effectivement contre-attaquer. On l'a vu face au Bayern notamment, où ils arrivaient à attaquer à 3, 4, 5, ils n'hésitaient pas quasiment à avoir la moitié de l'équipe dans la surface adverse.
Marina, on parlait de est-ce que le Barça doit trembler, oui un peu, mais surtout on
Tréma,
se souvient
Tréma.
Exactement. Mais surtout, on se souvient quand même que leur dernier match, où ils avaient 4 buts d'avance quand ils étaient arrivés à Dortmund, qui...
Ils ont tréma beaucoup.
Ouais. Et justement, on a vu aussi quelques limites de cette équipe d'Hansi Flick.
Oui, mais je pense que c'est vrai que ça joue, quand je disais tout à l'heure, cette confiance absolue qui se dégageait de cette équipe qui paraissait psychologiquement intouchable il y a encore quelques années. Là, maintenant, c'est terminé et ça se remarque sur le terrain. Ce que disait Philippe tout à l'heure, ces équipes-là comme l'Inter qui sont capables de très bien défendre et de se projeter, en fait, on arrive face à des équipes qui sont quasiment parfaites, quoi. quoi, parce que voilà, c'est il y a plus ce déséquilibre que voilà qu'on pouvait constater. Donc oui, les faiblesses peuvent, ce que tu disais tout à l'heure, Salim, être vues côté Barcelone.
Juste quand tu dis déséquilibre n'existe plus, je suis pas totalement d'accord entre guillemets. Le Barça, c'est presque un déséquilibre assumé. Ils assument d'être extrêmement haut sur la pelouse, quitte à être pris dans le dos et à assumer un contre un avec Koubarsi et à faire confiance à leurs joueurs. Au final, Koubarsi, Nigo Martinez et autres. Et même au gardien, qui est très haut. Absolument, c'est ça. Ouais. Donc c'est un déséquilibre qui est assumé. Après, ça fonctionne depuis le début de la saison. On voit ce que Barça fait.
Mm-hmm. Ouais. Voilà, en tout cas, pour ce qui est de cette équipe et de ce match qui aura lieu donc ce soir en Catalogne entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Et sachez qu'on sera là donc pour le débrief. On reviendra sur le match en deuxième édition de Radio Foot. Mais hier soir, il y avait aussi une première demi-finale aller. Et c'est une victoire du Paris Saint-Germain à l'Emirates à laquelle on ne s'attendait peut-être pas forcément.
Qui va rentrer dans la surface sur le côté gauche d'extérieur, la frappe, oh le but, la but du Paris Saint-Germain, oh le déboulé là de Kvaratskhelia sur le côté gauche qui a mis cet extérieur à l'entrée de la surface de réparation pour Ousmane Dembélé, la frappe croisée du pied gauche qui est venue taper le poteau rentrant de David Raya, 1-0 pour le PSG dès la 4ème minute. C'est terminé ici à Londres sur la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal, 1-0.
Les clubs anglais leur réussissent si bien. C'est contre Manchester City qu'on a vu naître cette équipe du Paris Saint-Germain. Et hier soir à l'Emirates de Londres, ils ont effacé leur piètre prestation de l'automne dernier où ils avaient perdu 2-0. Les Parisiens ont étouffé les Gunners dès le début de la rencontre. Un seul coup de canon donc qui a suffi, œuvre d'Ousmane Dembélé pour épater la presse européenne à Madrid. Le quotidien AS titre sur le PSG à un match de sepultar, alors d'enterrer hein, la Première Ligue. En Allemagne, le quotidien Bild parle d'une leçon de football donnée à Arsenal. Et à Londres, The Guardian décrit un Arsenal suffoqué par le pressing intense du PSG, incapable de respirer dans son propre stade. Est-ce que c'est une pluie d'éloges méritée, Salim ?
Oui, surtout encore plus peut-être sur la première période, parce qu'Arsenal nous a habitués durant cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, à tenter d'étouffer l'adversaire.
Surtout chez eux.
Surtout à l'Emirates. À l'Emirates, on a vu une équipe, notamment en Ligue des Champions, qui était vraiment très bonne depuis le début de la saison. Et là, sur la première période, alors sur la fin de première période, non, et puis par la suite, ça a été quand même beaucoup plus équilibré, même à l'avantage d'Arsenal en seconde. Mais sur la première demi-heure, c'était terrifiant, un tel écart entre les deux. En fait, ce qu'on voyait et ce qu'on a vu hier entre Arsenal et le PSG, on l'a vu entre Liverpool et le PSG. Sur la première rencontre match aller entre Aston Villa et le PSG a tellement bien attaqué que le club anglais qui était en face à chaque fois était étouffé hier à Arsenal.
Écoutons l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui concédait évidemment en fin de match les erreurs des siens et surtout la domination parisienne.
Le PSG fait partie du top. Ils ont battu les meilleures formations d'Angleterre. On ne peut pas dominer cette équipe pendant 95 minutes. Impossible, laissez tomber ça. Pour reprendre le contrôle, nous devons comprendre dans quelle zone du terrain nous avons échoué, savoir ce qui n'a pas fonctionné, trouver le moyen de récupérer le ballon pour mettre en place notre jeu et gagner le match au retour. Je ne connais pas les statistiques, nous avons encore nos chances, mais il va falloir être fort pour espérer disputer la finale.
Philippe, est-ce qu'on peut dire que cette équipe d'Arsenal, elle a été certes prise à la gorge dès le départ et avec ce but à la 4ème minute, mais même surprise par le PSG ?
Je pense pas. Je pense qu'elle a peut-être payé. Elle n'était pas dans le coup. Elle a fait 20 premières minutes catastrophiques, Arsenal. Donc, est-ce que c'est l'inexpérience, le fait d'une certaine nervosité ? Nervosité d'autant plus que l'adversaire vous trimballe et fait un très très bon début de match, parce que le PSG était très très bon au départ. Et du coup, est-ce que Arsenal s'est complètement recroquevillé sur lui-même et a manqué totalement de personnalité pendant 20 minutes ? Parce que c'était affligeant. Le milieu de terrain des Gunners, qui pourtant est une très bonne équipe, normalement, il y a trois très bons joueurs au milieu de terrain, ils étaient inexistants, quoi. Vitinha se baladait. Enfin, c'est une facilité dérisoire. Mais ça, ça enlève évidemment aucun crédit au, au PSG de dire ça, mais Arsenal a été très médiocre en, dans l'entame. Et je pense que ça, quand, ça les a quand même un peu traumatisés. Et ça leur a mis, d'ailleurs, toutes les éloges que vous voyez, elles sont aussi liées à une équipe d'Arsenal qui a paru complètement... qui n'était pas, qui apparaissait pas au niveau, qui apparaissait pas capable de faire autre chose. Alors après, le match est quand même équilibré, ça aurait pu faire un partout sans qu'il y ait à crier au scandale, mais cette impression, je pense, visuelle, c'est celle-là qui reste. C'est cette première demi-heure qui montre, que, qui a montré un Arsenal très en dessous de son adversaire.
Marina, est-ce qu'ils se sont vus peut-être trop beaux après cette victoire impressionnante et éclatante 15 jours avant face au Real Madrid, ce 3-0 qui était quand même, alors là, trois coups de canon.
C'est la question que je me suis posée, parce que je me suis dit, effectivement, ces premières minutes, bon, il peut y avoir un entame de match où on n'est pas concentré, mais enfin, sur un match comme ça à la maison, ça paraît assez étonnant quand même. Bon, on se prend le but rapidement, donc derrière, forcément, on a les, ça coupe les ailes, même si on a l'impression qu'ils ne les avaient pas encore déployées. Mais c'est ce que je me suis dit. Et surtout en relisant des interviews d'Arteta, où il était interrogé en disant, bah voilà, vous avez battu le Real, maintenant vous êtes favori. Oui, on est favori maintenant parce qu'on a battu le Real. Il est allé dans ce sens-là. Je me suis dit, c'est assez étonnant, effectivement. Est-ce que du coup, les joueurs aussi avaient ça dans leur tête? Je ne sais pas. Ça paraît assez dingue, mais je me pose encore la question de me dire, manque de concentration, trop de confiance en soi, je ne sais pas.
Et en tout cas, là où en quart, vous aviez aussi, au-delà de la domination, une réussite folle. Bon, les deux buts de Declan Rice, on se souvient de ça. Même le troisième but de Merino. Enfin, il y avait des réussites dans les frappes, etc. Hier, quand on voit Martinelli, son 1 contre 1, il ouvre tellement son pied. Après, Donnarumma va vite
comme
au sol,
d'habitude.
Mais on sait qu'il va ouvrir son pied. On sait qu'il va tenter de trouver ce petit filet. Donc, Donnarumma après va vite et le dégage très bien. Et comme il y a eu des opportunités hier pour Arsenal aussi,
oui.
Et c'est là où on se dit, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, quand vous n'avez pas de neuf, quand vos neufs sont blessés, Gabriel Jesus et autres, Sterling qui est évidemment en dessous de tout, Nwaneri quand il entre, mais il est beaucoup trop jeune, etc. Bref, vous avez un manque qui a pu être pallié en quart face au Real et sur d'autres rencontres. Mais à un moment donné, quand vous dans des carrés, quand vous n'avez pas de neuf, ça devient compliqué.
David Comerec, vous avez joué au football en dehors de filmer aussi la passion en Argentine. Quel était pour vous l'homme du match hier? Parce que on a vu que Dembélé était extrêmement impressionnant. Vitinha a finalement été désigné l'homme du match, mais nous, quand on préparait l'émission, on s'est dit que Donnarumma, il aurait aussi mérité le trophée.
Aussi, bien sûr. J'ai joué comme je pouvais.
quand même. Au stade Rennais
Oui, quelques mois. Et moi, j'ai bien aimé Joao Neves.
Ouais.
Neves, qui donne Donnarumma aussi, Neves. Le duo Neves-Vitinha, je crois qu'il n'y a pas mieux en Europe pour l'instant. Si on rajoute Pedri.
C'est vrai que c'est pas mal, ça.
Si vous ajoutez Pedri, là, ça devient très, très fort. Là,
c'est ce que je pense.
Ne donnez pas des idées au PSG. Les supporters catalans qui nous écoutent ne seraient pas contents.
Mais d'ailleurs, Vitinha, dans le vestiaire à Annie.
Sur les réseaux sociaux.
A donné le trophée à Gigi Donnarumma, disant c'est lui.
Chacun disant c'est lui. Oui. Il y avait un genre de jeu ou d'échange. Philippe, quel est pour vous... parce que même jouant en Neves, effectivement, on a aussi vu... qu'il était un peu partout sur ce terrain, Vitinha, n'en parlons pas. On avait l'impression aussi que le PSG, là, si on se demande s'il y avait un problème de concentration du côté d'Arsenal, pas trop chez les joueurs du Paris hier.
Non, mais globalement, depuis le début, à part peut-être cette deuxième période à Birmingham où ils se sont vus qualifiés, ils étaient tranquilles avec 4 buts d'avance et puis tout d'un coup ils ont perdu le fil. Et c'est la seule fois, depuis janvier, avant n'en parlons pas, on va pas ressortir tous les articles, tous les articles et toutes les phrases sur Donnarumma, Dembélé, tous ces gens qui savent rien faire.
Mais Philippe, sauf qu'ils ont, alors pour le coup, pas rien faire, et vous avez raison d'évoquer cela. En revanche, ils étaient quand même un ton en dessous, notamment Gigi Donnarumma qui faisait pas mal de bourre, typiquement.
Oui, mais enfin, de là à dire que c'était un mauvais gardien, je l'ai lu partout, une des absurdités qu'on aime bien.
Alors, votre homme du match hier?
Ouais, je suis assez d'accord. Jean Neves, peut-être plus que Vitinha qui a été très très bon, mais dans son registre, j'allais dire facile, ce qui est quand même un peu. Ce qui est quand même un peu osé.
C'est beaucoup voudraient être facile comme
vous dites. C'est osé de dire que c'est pas bien d'être facile en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais Jean Neves, en plus, défensivement, a fait des interventions décisives sur Merino. Là, il sauve, il sauve complètement un but. C'est une véritable occasion. Il n'y a pas de tir parce qu'il intervient, mais il a sauvé littéralement un but. Moi, je mettrais Jean Neves, absolument.
Marina ?
Oui, bah, je vous rejoins parce que j'étais impressionnée par ce sauvetage. Je me suis dit, c'est la perfection. Quoi. Mm-hmm. Il y a des moments, des gestes comme ça, qu'on peut que
oui,
saluer.
Et puis des joueurs, c'est pas ceux sur lesquels on se focalise parfois du regard, mais qui ont un rôle.
Complètement.
On s'en aperçoit.
Ouais.
Si on n'a pas les nerfs, c'est pénalty. Et on se fait assassiner partout. Et à l'inverse, si on a les nerfs, le geste juste et autre, et tout d'un coup, il n'y a même pas occasion de but. C'est fantastique. Quoi.
Mm-hmm. C'est vrai que Didier Donnarumma, quand même, Vitinha donc, lui a donné ce trophée symboliquement dans le vestiaire. Encore une fois, il a été quand même clé dans une rencontre de Ligue des Champions. Lui qui a été tensé, critiqué, parfois à juste titre aussi, sur la première partie de saison, est quand même loin d'être de tout reproche, notamment lors de cette fameuse rencontre de phase de Ligue, face à Arsenal, justement, où sur les ballons aériens, il était vraiment en dessous. Hier, la vitesse où il va au sol, parce que réussir à mettre sa grande carcasse au sol à toute vitesse comme ça, il l'a fait et bien fait. À Villa, il avait été remarquable contre Aston Villa. À Liverpool également. Enfin, il est sur une séquence assez folle. C'est vrai que Donnarumma, pas mal non plus.
En tout cas, au retour, il faudra évidemment être sérieux et Luis Enrique ne s'enivre pas véritablement de cette victoire ni des éloges, même si on voit qu'il devient très francophone quand il gagne.
Oui,
enfin,
c'est ça. Que
il n'en pas
gagne,
un quand il gagne. Ouais. Non, après les matchs de Ligue des Champions, en tout cas au micro de Cédric de Oliveira, il reste prudent.
Il me semble que le premier objectif du premier match a été atteint. Il aurait très bien pu se terminer sur un nul et cela n'aurait rien changé. Il aurait aussi pu finir sur un 0-2. Mais voilà, c'est ce score-là et on ne peut rien y changer. L'objectif maintenant, c'est de gagner chez nous au retour. Évidemment, il ne faut rien calculer, car sur une action anodine, en une seconde, un but peut être marqué et tout est relancé. La qualification redevient incertaine. Souvenez-vous, face à Liverpool, nous n'étions pas unis dans notre stade. On a été battus, mais on a réussi à se qualifier ensuite après un grand match. Cette fois, c'est nous qui sommes allés gagner à l'aller et on se doit de l'emporter chez nous. Il faut gagner chez nous parce qu'on peut s'attendre à ce qu'Arsenal marque. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont menés au score. Le match retour promet une demi-finale passionnante pour les amateurs de football et peut-être un peu stressante pour les entraîneurs.
Un match retour, effectivement, il y a un but d'avance, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, Marina.
Oui, non, c'est sûr que ça aurait été pas désagréable qu'ils mettent le petit deuxième avant le retour, mais non, enfin après vu ce qu'ils ont été capables de montrer hier soir les Parisiens, là je vois pas comment ils pourraient rater leur retour. Après on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Il y a la question de qui pourra jouer ce match, effectivement.
Incertitude autour de Dembélé.
Oui. Incertitude autour de Dembélé. Bon, j'ai vu que les examens aujourd'hui n'ont pas été faits, finalement.
Ah, si. En fait, si. Et apparemment, il y a des retours, selon certains médias français, plutôt positifs, apparemment, autour de Dembélé. Donc, après, ils ont l'air plutôt optimistes sur
son retour.
Mais de toute
façon, Salim, quand on voit le banc du PSG, on n'est pas trop inquiet non plus.
Oui,
même
si.
C'est quand même Dembélé. Hein.
Ouais. Oui. Non,
c'est
je
pas... C'est pas Zaire Emery, quoi. Pardon, j'aurais pas dû dire de nom.
Non, mais c'est vrai que Dembélé est tellement en forme qu'on se dit le remplacer, c'est quand même particulier. C'est vrai que l'entrée hier de Barcola, c'est fou, hein, Barcola qu'on encensait, là aussi à juste titre. Hier, son opportunité absolument incroyable, et on se dit comment il fait pour la mettre dehors. Il y a 6 mois, c'était dehors, c'était dedans, tranquille, Bradley Barcola. Comme quoi, après, c'est facile à dire encore une fois quand on est devant sa télé, hein, Philippe, on sera d'accord. La frappe de Gonzalo Ramos, qui elle était incroyable sur la barre transversale. Mais on se dit que ça, ce genre de petite occasion, ça vous change quand même toute une histoire de rencontre.
On le verra donc au match retour qui sera suivi et retransmis bien sûr sur RFI. Avant d'aborder la passion football en Argentine, eh bien quelques rythmes afro-caribéens venus de Colombie. Son Palenque et le titre c'est Chamuquinha.
Javier Montes.
Chamuquinha de Som Palenque, qui nous vient donc de Colombie, est retrouvé sur la playlist de RFI Musique. Mais nous, on part plus au sud de l'Amérique du Sud.
Va Matantuono! Golazo de Matantuono! Era para hacer silencio! Qué bien que le pegó Franco Matantuono! Lo gana River a los 25. River tiene 1, Boca tiene 0, pero qué pedazo de gol, Juanjo!
Eh oui, le bombazo Matantuono. Retenez ce nom, car on entendra surtout, sûrement parler dans un futur proche à 17 ans et 8 mois. C'est-à-dire que...
Les 8 mois, c'est important.
Oui, parce que dans 4 mois, il pourra partir quelque part. Exactement. Le jeune Franco, formé au club de River Plate, a donc marqué les esprits en ouvrant le score par ce spectaculaire coup franc dans les stadios Monumental. Salim, c'était à combien de mètres des buts?
Oui, il était beaucoup trop long, hein. Surtout quand on voit en plus de derrière,
dites-toi.
Mais ça, et puis surtout, la courbe, elle est incroyable parce que au final, là,
c'est
où
du Declan
ballon...
Rice.
Comment? On est dans cet esprit, mais avec un pied gauche, typiquement.
J'ai Maradona plutôt, non?
Mais en étant en Argentine, effectivement, vous avez raison. Mais c'est vrai
sauf qu'il ne jouait pas pour River.
La courbe est absolument folle. C'est vrai que le ballon, la manière où ce ballon est placé, on se dit que les deux pieds peuvent toucher ce ballon. Il y avait un droitier et donc lui. Et la courbe, elle va dans la lucarne, de la lucarne, de la lucarne, à la Declan Rice, typiquement ce qu'on évoquait à l'instant. Bref, une courbe incroyable pour une victoire au final de 2-1.
En tout cas, le jeune joueur Franco Mastantuono, eh bien, il l'avait bien préparé, ce coup franc, et en amont, et il l'a dit à nos confrères argentins.
J'ai beaucoup discuté avec Pity Martinez, mon coéquipier, qui a beaucoup d'expérience et qui a tout gagné ici. Il m'a conseillé de ne pas trop me laisser distraire par l'ambiance, par les aspects extérieurs qui sont chargés d'adrénaline lors des derbies, et c'est normal. J'ai cherché la concentration et ses conseils m'ont beaucoup aidé. C'est le match que j'attendais le plus depuis que je joue en première division. Je suis heureux et ému. On ne peut que rêver de ces choses-là, que votre équipe l'emporte. Ce sont des moments uniques.
Alors, moment unique, River a remporté le Super Classico 2-1 face à Boca Juniors. Et puis surtout, il n'y avait jamais eu une telle affluence dans l'Estadio Monumental. 85 018 spectateurs pour cette confrontation. Surtout un délire en tribune, des drapeaux, des chants, une ambiance qu'on aimerait tous connaître, surtout dans d'autres stades en Europe. Est-ce que, selon vous, David, d'abord, est-ce que vous avez déjà assisté à Buenos Aires à un Super Classico?
Non, jamais. J'ai assisté qu'au match à Buenos Aires, dans la fan zone, pendant la Coupe du Monde. Mais non, je regarde les Super Classico, mais je n'ai pas eu l'honneur.
Alors vous, justement, vous êtes réalisateur et vous avez passé un mois en Argentine auprès des Argentins. C'était pendant la dernière Coupe du Monde, celle du Qatar, et donc celle où les Argentins ont fini par... prendre la Coupe du Monde face à la France. Racontez-nous un petit peu. Alors, le documentaire s'appelle Nuestra Alma. On va en entendre un petit extrait parce que ça donne bien le ton de ce que vous avez montré dans ce documentaire.
Si je te disais que leur amour pour le football est immense.
Es lo que te explicaba hoy que un niño cuando nace, ya sea varón, lo primero que se le regala comúnmente es una pelota de fútbol.
Para nosotros lo que hacen adentro de la cancha es arte.
Alors, ces Argentins, l'un de vos interlocuteurs dit, le premier cadeau qu'on donne à un gamin en Argentine, eh bien, c'est quasi exclusivement un ballon, hein, la pelota. Et puis, un autre dit, ce qu'ils font sur le terrain, c'est de l'art, au point de vue grandeur de ce qu'ils font. Cette passion, comment l'avez-vous vue? Comment l'avez-vous vécu, vous, en Argentine?
Alors, moi, déjà, en tant que réalisateur, aller à la rencontre de...
Et amateur de foot en plus.
Oui, amateur passionné des Bleus aussi.
Et ça ne va pas être simple.
Non, aller à la rencontre d'un tel pays, ça a été bouleversant en fait. Bouleversant par... en fait, c'est comme un shaker. On met des ingrédients, on secoue et quand on le prend, on se dit waouh, j'ai jamais connu ce goût. C'est un mélange de passion, d'amour, de superstitions, de sentiments, comme ils appellent le sentimiento, le football là-bas. Voilà, c'est un sentiment. Donc c'est dur à percevoir pour nous, Européens, et à filmer, oui. C'est ça, et puis c'est un processus aussi. On n'est pas habitué en Europe à avoir ce processus. C'est un processus quand le père de famille dit en Argentine, quand un enfant, un garçon naît, on lui offre son premier cadeau, c'est un ballon de football. Et ensuite, il y a la transmission qui se met en place. Et ça, c'est de génération en génération.
Et la transmission notamment du club.
Exactement.
Un club auquel on est fidèle la vie entière.
Les Hinchas sont, en Argentine, les Hinchas sont plus supporters de leur club que de la sélection. Bon, il y a le sentiment de la joie qu'ils ont récupérée avec la Copa América 2021. Ils ont récupéré la joie dans la sélection. Mais oui, c'est avant tout, ils sont fans d'un club. Et c'est tous les jours, ils ne pensent qu'au club.
Mmh. Mais quand c'est la sélection argentine, est-ce que c'est décuplé selon vous? Est-ce que quand c'était la Coupe du Monde, quand on porte le maillot argentin, quand on va assister au match avec des milliers de gens en portant le maillot, c'est encore autre chose?
Oui, moi j'ai vu que des maillots argentins. Après, c'est en échangeant qu'on comprend que c'est avant tout le club et après la sélection. Mais ça, c'est dû aussi au fait que depuis 1986, ils n'avaient pas gagné de trophée. Donc, l'Argentin est très superstitieux, donc il y a toujours l'espoir. Ils ont, depuis 1986, ils ont toujours gardé l'espoir. Et après, avec la Copa América 2021, ils ont récupéré la joie. Et en plus, il y a eu une empathie pour l'équipe, l'équipe s'est rapprochée à l'image du peuple, en fait. Donc ça a décuplé.
Ses supporters.
Voilà, ça a décuplé. L'Argentin connaît une crise économique très, très grave.
Voire politique.
Oui, c'est un peu. Beaucoup de fans nous ont dit nous, on aime le foot parce que c'est une sorte de refuge pour nous. Et donc, c'est pour ça, ils y pensent tous les jours.
Alors, en plus, c'était la dernière Coupe du Monde, ou avant-dernière, mais de Messi, qui était attendu, évidemment, très attendu. Philippe, ce documentaire, vous l'avez vu aussi, puisque vous l'aviez sélectionné pour Deauville, le festival du documentaire sportif. C'est vrai que c'est un documentaire sans commentaire. Ce sont les Argentins qui parlent eux-mêmes.
In vivo.
Voilà, de cette passion. Ça transparaît bien à travers l'image, ce sentimiento, alors que c'est de l'abstrait, en fait.
Bien sûr, c'est là où on voit que le football dépasse complètement le terrain, le 4-4-2 et autres choses qui alimentent nos débats. Bon, c'est très bien. Mais
on donne des éléments.
On donne des éléments, et puis c'est la vie du foot là-haut, enfin, quand on le voit de façon très professionnelle et autre. Là, on est complètement dans autre chose. On est plongé à l'intérieur du foot, l'importance, on voit toute l'importance du foot. Le documentaire, il est génial pour ça. C'est qu'on sent à quel point, mais c'est important pour eux. Alors que globalement, moi j'adore les supporters de PSG qui sont là, il faut absolument qu'on la gagne et qu'on la gagne, qu'on la gagne. Et à chaque fois, je leur dis, oui, et le lendemain? Ils me disent, non, mais on aura gagné. Oui, d'accord, mais le lendemain, vous croyez que vous serez plus heureux, que ça changera votre vie, etc. Je dis non.
Mais ça change la vie des Argentins?
Bien sûr. Ah, eux, bien sûr. Eux, c'est des ils sont complètement fous de ça, mais... Vous n'avez pas vu les Péruviens à la Coupe du Monde? C'était dingue. Il y avait 40 000 Péruviens à la Coupe du Monde en Russie.
Ils avaient joué contre la France, d'ailleurs.
Ils étaient dans toutes les villes comme ça. C'est leur vie. C'est leur vie. Ils passent, sans avoir les moyens économiques en plus, ils passent un mois comme ça en Russie à suivre leur équipe, et dont 30 000 n'étaient même pas dans le stade parce qu'ils n'avaient pas les billets en général. Ils n'en avaient que 10 000 qui rentraient.
Et qui s'endettent pour 10 ans.
Ou 15 000. Pour eux, c'est autant qu'une religion. C'est pour ça qu'on compare ça à une religion. On l'entend de manière un peu péjorative, mais il faut le comprendre, c'est leur vie en fait, c'est même plus qu'une religion en fait, c'est leur vie.
Et vraiment, pour insister, et ça a été évoqué, la crise politique et économique que connaît l'Argentine, vous avez évoqué le mot de refuge, c'est vraiment ça. D'ailleurs, la fête que l'on a vue après la victoire de l'équipe d'Argentine sur place, c'est une fête, vous allez me dire, elle aurait eu lieu en France ou dans d'autres pays, mais là, peut-être avec un aspect encore plus fort, justement, parce qu'encore une fois, ça contraste avec les difficultés au quotidien qu'a cette population argentine.
Et Salim, on sait que le football est venu d'Angleterre et notamment en Amérique du Sud, apporté par les Anglais à différentes époques, et quand des Anglais étaient là pour des raisons économiques, au Brésil comme en Argentine. Mais là, on retrouve aussi en Argentine ce côté passion du club et... Après, la passion pour la sélection.
Vous avez ça encore en Angleterre, moins dans... C'est bizarre d'ailleurs, parce que en première ligue, alors vous avez toujours quand même une frange non négligeable de personnes pour qui le club est important. Vous connaissez mon amour, je le dis, pour West Ham, et je connais beaucoup de gens pour qui West Ham est d'abord le club qui compte avant l'équipe d'Angleterre. Mmh. Pour d'autres, c'est Liverpool, pour d'autres, c'est Manchester, etc. Mais c'est plus toutes les personnes, justement. Avant, c'était vraiment ça, quand vous alliez à Anfield, quasiment tout le monde était comme ça. Quand vous alliez à Old Trafford, c'est le cas. En revanche, quand vous allez dans les petites divisions, plus vous descendez, et plus il y a cet attachement, peut-être parce que, justement, il y a ce côté plus de proximité qui fait qu'on est encore plus proche donc, de son club. Et là, ben, vous avez ces petits supporters dans un club de 4, 5, 6, 7e division. C'est d'abord leur club au quotidien, puis les clubs d'Angleterre de temps en temps.
C'est vrai que quand David parlait de ça, de la transmission du ballon, le premier cadeau à un petit garçon, c'est le ballon. C'est vrai que Salim, vous le savez mieux que moi, mais en Angleterre, on voit ça encore. Quoi. Le papa qui arrive avec le petit. Et c'est vrai que voilà, nous, en France, on va dire, bah oui, moi je suis supporter du PSG, éventuellement je vais t'offrir un maillot à tes 5 ans, mais c'est, voilà, c'est, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ancré dans la famille comme ça peut l'être en Argentine, et Salim me confirme encore en Angleterre aussi.
Et en plus, il y a cette fidélité à un club. On change pas de club en cours de route, c'est et interdit. Jamais dans la vie, David.
C'est interdit.
Ouais.
Interdit. On est Boca vie, on est River Plate à vie, et ça. Mm-hmm. C'est comme ça.
Est-ce que Messi a changé de statut à l'issue de cette Coupe du Monde en Argentine pour les Argentins?
Il faudrait appeler Nicolas Cougo pour savoir. Moi, je suis en tant que réalisateur. Pour moi, il était déjà un dieu avant. Tout le monde parlait que de Messi. Mm-hmm. Pendant un mois, c'était Messi. C'est Messi qui va nous faire gagner la Coupe du Monde. Mm-hmm. Mais c'est l'équipe de Messi.
Mais il avait quand même un sacré concurrent qui s'appelle Maradona. Dans l'imaginaire.
Oui, mais en fait, comme André Burgo, le journaliste, l'écrivain de Buenos Aires, expliquait que c'est difficile de... en fait, on revient à l'enfance, c'est comme pour nous.
Oui.
On revient à notre idole d'enfance. Héros. On peut pas...
C'est par génération.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Lui, c'est Maradona. Et ceux qui ont vécu la Coupe du Monde, les jeunes qui ont vécu la Coupe du Monde, ça sera Messi. Mm-hmm. On revient toujours à...
Et plus tard, ce sera Mastantuono, peut-être, pour les futurs Argentins.
Exactement, ce petit dont on risque de parler très prochainement, parce qu'il est dans l'œil et dans le viseur de pas mal de clubs. Merci beaucoup, David Comeruc, d'être venu dans Radio Foot. Peut-être qu'un jour, vous reviendrez dans Mondial Sport pour parler vélo en Afrique, sur le continent africain.
Je l'espère.
Merci beaucoup. Et puis, pour nos auditeurs, on se retrouve ce soir pour la deuxième édition. Merci à tous.